en préambule, je voudrais vous présenter rapidement notre école, parce que je pense que c'est toujours utile de dire d'où est-ce qu'on part. Alors, l'école des mines de Paris, c'est une école d'ingénieurs, mais elle est un petit peu particulière parce qu'elle a été créée à la fin du 18e pour former un des grands corps de l'État, le corps des mines. Mais aujourd'hui, ses missions se sont vraiment considérablement diversifiées et elle est avant tout une grande école d'ingénieurs qui a la particularité d'avoir une très importante activité de recherche. Et elle est d'ailleurs complètement structurée autour de cette recherche avec 18 laboratoires qui travaillent sur des domaines, bon, ben, bien sûr, qui relèvent des sciences appliquées, mais ce qu'on imagine moins spontanément, qui travaillent aussi beaucoup sur les sciences humaines et sociales, tout ce qui est économie, gestion, sociologie de l'innovation, ce genre de choses. On a actuellement, pour vous donner une idée aussi de l'importance de la recherche, 380 doctorants, ce qui représente le tiers de nos effectifs. Donc c'est une proportion de doctorants assez importante. Et puis au total, ben, on dispense des formations à environ 1300 personnes. Alors par contre, ça n'a rien à voir avec les effectifs d'une université. Et bon, c'est aussi ce qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Alors, avant de commencer, je vous dois peut-être une petite explication sur le titre de notre intervention, qui est quand même un petit peu abscon. Alors, si on se demande si la politique documentaire est soluble dans la bibliométrie et dans les compétences informationnelles, c'est parce que nos interrogations sur comment mettre en place une politique documentaire dans une école telle que la nôtre nous ont amené en amont de la Pôle Doc à nous appuyer sur le travail fait avec les chercheurs en matière de bibliométrie pour comprendre leurs besoins documentaires. On vous expliquera comment. Et puis en aval, notre réflexion sur la diffusion de la documentation nous a conduit à considérer comme essentielle la formation à la recherche d'informations. Et bon, lorsque l'on parle de solubilité, bon, ça, là on exagère un petit peu, ça veut pas dire pour nous disparition, mais plutôt fusion de la politique documentaire dans les politiques de recherche et de formation de notre établissement. Alors, Clarisse va d'abord, qui est la responsable de la politique documentaire à l'École des Mines, va d'abord prendre la parole pour vous exposer notre démarche d'analyse des besoins. Et puis après, moi, je vous ferai partager nos interrogations sur le sens que prend la notion de constitution d'une collection dans le cas d'une bibliothèque comme la nôtre, qui, elle, a déjà basculé dans le numérique et qui aussi s'engage, et ça c'est très important pour nous, qui s'engage aussi dans la promotion de l'open access.
Je reprends le micro. Bonjour, ou presque bonsoir. Donc je vais parler de notre expérimentation et de nos travaux qu'on a effectués depuis plusieurs mois. Donc, comme le disait Laurence, la première question qu'on est amené à se poser pour mettre en place une Pôle Doc dans une école comme la nôtre, c'est quel bilan de l'existant peut-on faire ? Depuis 2009, la part des ressources électroniques dans le budget de documentation est passée d'un peu plus de 60%, ce qui était déjà beaucoup, à 73% aujourd'hui. Pour ce qui est des achats d'ouvrages, donc à force de réduire la part du papier, les acquisitions de livres sont tombées quasi à zéro en 2011. Les chercheurs ont perdu du coup l'habitude de faire des demandes d'acquisition et se sont contentés de faire des achats ponctuels sur leur propre crédit recherche. Donc on a fait ce constat en 2013, certains centres achètent directement leurs livres avec parfois, même souvent, de la perte d'informations, des achats doublons inutiles et bien sûr aussi malheureusement la perte des documents eux-mêmes. Donc ces centres en sont arrivés à demander de l'aide à la bibliothèque pour gérer leurs propres ouvrages. Donc, pour ce qui est de l'enseignement, les besoins des élèves étaient très peu pris en compte, du coup, si ce n'est via l'achat en nombre de manuels rédigés par les enseignants de l'école, ce qui revenait à une sorte de fourniture de polycopiés un peu élaborée. Donc on arrive à une conclusion peu réjouissante pour les livres, pas de signalement, pas de vue d'ensemble, pas de circulation des documents. Pour ce qui est des périodiques papier, la gestion est centralisée par la bibliothèque qui a une vue d'ensemble. Le signalement est fait au niveau de notre portail. La circulation des documents reste toutefois améliorée. Le taux de réponse à l'enquête faite chaque année par la bibliothèque auprès des centres reste faible. Pour rappel, évidemment, on a diminué fortement le chiffre d'affaires année après année en faveur de l'électronique, bien sûr. Enfin, pour les ressources électroniques, les achats sont réalisés par la bibliothèque de façon centralisée. Le taux de réponse est également faible, finalement, à l'enquête annuelle que l'on fait. On note de très rares manifestations de chercheurs, sauf évidemment en cas de coupure d'accès. Donc, après ce bilan, il nous a semblé vraiment nécessaire d'observer, de mesurer et d'analyser les usages de notre offre en documentation. Donc, un des moyens qui nous semblait intéressant pour analyser les usages, outre la traditionnelle enquête de satisfaction, ça a été l'observation de la salle de lecture à Paris par les personnels qui assurent le service public. Une enquête basée sur des observations a été réalisée pendant 2 mois et ça nous a permis, par exemple, de constater qu'un quart des usagers qui fréquentent la bibliothèque finalement n'utilisaient pas les collections. Après, ce qui nous semblait vraiment important, dans notre cas, où la doc électronique est vraiment majoritaire, c'était d'analyser les statistiques d'utilisation de ces ressources. Donc, depuis 2009, la bibliothèque recueille et exploite les statistiques d'utilisation des ressources électroniques fournies par les éditeurs. Alors, c'est utile, en particulier, de recueillir le nombre de téléchargements, de calculer le coût au téléchargement ou à la session, mais ça reste finalement assez peu fiable et c'est très difficile d'effectuer des comparaisons entre les différentes bases. Les stats d'usage de certaines ressources, notamment les françaises, pour ne pas les nommer, sont très difficiles à recueillir et ou à exploiter. C'est toujours difficile de comparer des patates et des pommes, en gros. Les usages à différents types de ressources, c'est vraiment pas évident. On essaie de les exploiter de manière différenciée en termes de coût par article ou par session d'utilisation. Si je peux citer un petit exemple, Encyclopédia Universalis nous fournit des statistiques de téléchargement de documents, mais on s'est posé récemment la question, qu'est-ce qu'on entend par document ? L'article lui-même, les parties composantes de l'article, les images y compris, les paragraphes, donc tout ça n'est pas très clair. Donc du coup, comment comparer dans un même temps des nombres de sessions sans téléchargement apparent, avec téléchargement, des téléchargements d'articles sous divers formats, tout en ignorant parfois totalement comment sont compilées et comptées ces données. En bref, ces chiffres dépendent en grande partie du bon vouloir des éditeurs et des diffuseurs, même si un grand nombre d'entre eux s'efforcent de fournir des statistiques propres selon les codes de bonne pratique counter dévolus au stade d'usage des ressources électroniques. Donc, nous nous sommes intéressés par conséquent à une autre voie de recueil des statistiques d'usage, mais cette fois-ci locale. Et évidemment, les projets menés par le consortium Couperin en partenariat avec l'INIST tombés à point nommé, ce double projet analogiste et EasyPars, pour les nommer, a pour objectif de mutualiser une démarche et un outil logiciel pour recueillir statistiquement, localement, et pour compiler les logs aux ressources électroniques proposées par les établissements à leurs usagers. C'est un peu technique, je vais essayer d'être clair. Les logs sont récupérés en masse à partir des données stockées sur les serveurs proxy des établissements. On part du fait que les URL de ces logs, pour se connecter aux plateformes des éditeurs et pour télécharger les documents sous format variable, sont constitués par une syntaxe particulière. Cette syntaxe est récurrente, donc par type de document propre à chaque plateforme éditeur. Donc, par exemple, on aura une syntaxe pour un abstract, pour un article full texte sous format PDF ou sous format HTML. Donc, en développant une démarche continue, le projet analogiste permet de mutualiser l'analyse de cette syntaxe de log. Le travail d'analyse qui a été fait une fois, finalement, bénéficie à tous. Donc, une fois cette analyse faite, le parseur EasyPars, un petit logiciel libre qui peut être installé sur les serveurs proxy des établissements, collecte et décrypte la syntaxe de l'ensemble des logs aux ressources électroniques. Il les décrypte et les compile uniquement s'il les reconnaît, d'où l'importance de l'analyse des plateformes faites au préalable. Donc ces données constituent des statistiques locales, beaucoup plus fines et plus fiables que ce que peuvent nous fournir les éditeurs, car on peut différencier les téléchargements et l'affichage aussi des différents items. Le nombre de documents par type, par support, PDF, HTML, etc., par titre de revue, par ISSN, IISSN, IP, ISSN, sur quelle période, à quelle date, etc. On peut même parfois obtenir l'identifiant DOI des articles téléchargés. Et aussi, si techniquement on peut, différencier le type d'usager selon, par exemple, la racine des adresses IP des logs. Donc, l'analyse des usages est très importante dans une démarche de construction. Évidemment, on ne va pas abandonner pour autant les stats fournis par les éditeurs. On va essayer de croiser, de se faire dialoguer ce corpus de stats. Mais donc, l'analyse de ces usages ne saurait suffire. Nous avons complété cette démarche par le recueil en besoin, en documentation de nos usagers, dans un second temps. On vient d'abord de manière très classique pour se faire un travail fin et aussi finalement échantillonné de repérage des besoins à partir par exemple des demandes de prêts entre bibliothèques ou à partir des cours, de certains cours phares de l'école comme la description de controverses scientifiques, voilà, ce genre de choses. Mais ça ne peut pas prévaloir une vision d'ensemble des besoins car cela exprime en général des besoins particuliers d'usagers finalement déjà captifs de la bibliothèque. On pense par exemple aux profs qui distribuent leur bibliographie ou qui nous sollicitent, finalement, ce sont toujours les mêmes. Donc, nous avons organisé une concertation plus systématique. Nous sommes allés au-delà des simples enquêtes pour ça. Il nous fallait donc une instance de dialogue et de validation. Mais notre école ne possède pas de conseil de la documentation. Alors, plutôt que de créer une nouvelle instance, alors qu'il en existe déjà un très grand nombre à l'école, et plutôt que de se tromper vraiment, nous avons opté pour l'immersion systématique de la bibliothèque dans tous les conseils, dans tous les comités et toutes les commissions, là où ont lieu les débats de l'école, où débattent les chercheurs sur des questions qui les intéressent directement. On y a présenté nos projets en matière de Poldoc, et on a fait en sorte de les mobiliser autour de ces projets. Ensuite, nous avons pris le bâton de pèlerin, nous sommes allés dans chaque centre de recherche pour discuter directement avec eux. Ce dont nous voulions parler avant tout, c'était de la segmentation de nos collections pour obtenir une représentation fine des domaines scientifiques qui intéressent notre école, que ce soit pour l'enseignement ou pour la recherche. Il nous est vite apparu qu'il n'était pas possible de leur demander de but en blanc ce qui les intéressait ou sur quoi ils travaillaient et qu'il convenait vraiment de venir avec des propositions. Donc pour ça, nous avons décidé de nous servir des listes de publications que nos chercheurs venaient juste de fournir à l'AERES, l'Agence d'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur. Donc, partir de ces productions nous semblait intéressant en double titre. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble que ces productions doivent faire partie de l'offre documentaire de l'école. Il est important de les conserver et de les diffuser. C'est un patrimoine qui se construit. Partir de ces productions, c'est aussi partir de ce qui sort pour mieux comprendre ce qui doit entrer dans les collections. C'est partir de ce qui intéresse nos usagers et ce pourquoi ils nous sollicitent. Ça permet de comprendre sur quoi ils travaillent. Par exemple, il nous semble évidemment pertinent s'abonner aux revues dans lesquelles nos chercheurs publient, puisque sans doute qu'ils les lisent. Voilà. Nous avons donc exploité systématiquement cette liste. Et le but, c'était de dégager les grandes disciplines, les sujets de recherche et les domaines dits supports de la recherche de chaque centre de l'école et de les traduire, en tout cas essayer, dans la DIWAE, la classification utilisée par les bibliothèques de Paris et de Fontainebleau. Donc, par domaine de support, j'entends les champs disciplinaires qui ne sont pas au cœur des sujets de recherche d'un centre, mais qui recouvrent des compétences et des savoirs indispensables pour bien exploiter leurs sujets de recherche. Par exemple, le centre de robotique, le CAOR, va exploiter les dernières avancées des neurosciences, mais comme finalement le fait le centre de gestion scientifique ou le centre d'économie industrielle. Donc, dans le même temps, nous avons rencontré dans chaque centre un chercheur pour discuter des usages et des besoins en documentation de leur centre et pour leur présenter et leur faire valider cette classification de leur sujet. On a dû faire un petit peu de pédagogie sur ce qu'est une classification. Finalement, on a eu un plutôt bon accueil. Mais l'important était d'obtenir cette validation, voire la collaboration des chercheurs rencontrés pour compléter ou amender au fur et à mesure ces classifications. On était, du coup, on a mis en place une sorte de work in progress, comme disait Bertrand tout à l'heure. Ce qui s'est avéré intéressant également, c'est de pouvoir dégager des domaines parfois très pointus sur lesquels plusieurs centres travaillaient et pas forcément dans les mêmes grandes disciplines. L'exemple que je donnais plutôt sur les neurosciences est flagrant là-dessus. Ce qui a finalement permis aux chercheurs de prendre conscience de cela, puisqu'eux aussi découvraient en même temps cette vision d'ensemble des sujets de recherche de l'école. Donc, à partir de ces domaines, nous avons aussi établi dans le même document une classification des disciplines enseignées dans les différents cursus portés par l'école. En effet, la grande majorité des enseignements sont portés eux-mêmes par les centres de recherche qui sont tous responsables de plusieurs enseignements fondamentaux ou d'options. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'aboutir, par exemple, à une liste de codes validés, à la constitution d'une équipe d'acquéreurs et, bien sûr, à une constitution de charte documentaire. Donc, une fois les usages analysés, les besoins définis, en théorie, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre la constitution ou son développement, si je puis dire.
Et alors là, a priori, on avait tout bien fait, on a bien déterminé nos domaines, etc., en se concertant avec les chercheurs, mais on s'est vite aperçu quand même que dans un contexte comme le nôtre, où la documentation est vraiment très très majoritairement numérique, c'est pas aussi évident que ça de parler de politique d'acquisition, de parler de choix, et on se demande même si on peut vraiment constituer une collection au niveau de notre bibliothèque. Parce que finalement, la majorité de ce qui constitue notre collection, si je peux encore employer ce mot, ce sont des bouquets de revues électroniques et des bases de données. Or, s'il y a bien acquisition de ces accès, il y a de moins en moins de choix réalisés au niveau de la bibliothèque, au niveau de la bibliothèque elle-même. Pour vous donner une idée, notre marge de manœuvre sur les acquisitions documentaires de 2015 porte seulement sur 15% du budget. Tout le reste est déjà gagé pour différentes raisons. Alors, pour quelles raisons? D'abord, parce que l'essentiel de ces acquisitions concerne des bouquets de revues qui sont négociés par le consortium Couperin et pour lesquels on signe des contrats qui nous lient généralement sur 3 ans. Cet achat par bouquet, dont on ne maîtrise pas le contenu, est imposé par les éditeurs. Et pour lutter contre l'explosion des prix de ces bouquets et arriver à négocier des tarifs acceptables pour des contenus correspondant à peu près aux besoins de nos usagers, on s'engage sur plusieurs années. Nos possibilités de choix, donc aussi bien en matière de contenu que de durée, sont donc assez restreintes. Et à ça vient s'ajouter l'action de notre commu. Alors, qui est positive, bien sûr, je veux rester politiquement correcte, mais ça nous permet quand même de retrouver des possibilités financières qui commençaient sérieusement à diminuer, mais ça nous contraint encore plus, parce que un des principes retenus par notre communauté consiste en effet en l'élargissement de l'accès à tous les membres de la commune de certaines ressources déjà possédées par 2 ou 3 membres. Et la commune négocie en échange de cet élargissement à tous le paiement d'un supplément. Mais ça implique forcément, comme ce n'est qu'un supplément, que les 2 ou 3 qui payaient déjà s'engagent à maintenir leur abonnement. Donc ça nous fait encore un abonnement de moins qu'on peut désabonner pour acheter autre chose, par exemple, si on s'apercevait qu'il y avait... Bon. Voilà, donc cette question des bouquets. Et puis, ça c'est principalement pour les revues, pour ce qui concerne les e-books, là, on rencontre plus ou moins le même type de difficultés que pour les revues, parce que le modèle le plus courant, du moins dans le domaine scientifique, c'est aussi l'abonnement à des bouquets. Alors, on essaie quand même de sortir de cette logique pour privilégier les achats à titre ou au moins par collection qui sont plus accessibles dans le cas des e-books que dans celui des revues. C'est quand même un peu plus possible, on a un peu plus de marge de manœuvre. Donc on est en train de, après avoir acheté des bouquets il y a quelques années de type le bouquet de Springer ou des choses comme ça, on tente maintenant une expérience avec Open Edition parce que cette plateforme nous semble intéressante. Elle apporte des garanties en matière de pérennité, une grande souplesse en matière de téléchargement, des facilités en matière de signalement et puis bon, cette possibilité du titre à titre qu'on a quand même bien envie de tester. Bon, ça ce sont les premières contraintes, mais c'est quand même ce qu'on achète malgré tout. Et puis il y a tout ce qui passe plus par notre budget pour différentes raisons, mais qui fait quand même partie de l'offre qu'on propose à nos usagers. Alors là, je veux parler du développement des licences nationales, ou plutôt de ce dont nous ont parlé tout à l'heure nos collègues de l'ABES, des achats d'archives dans le cadre du programme ISTEX. Là, le choix de ces licences nationales, il ne se fait pas au niveau des établissements qui n'ont pas été consultés en tant que tels. Parce que, comme ils nous l'ont expliqué, il y a bien eu des enquêtes faites auprès des chercheurs, et nous, on les a très bien relayées dans notre école. Mais ils ont été interrogés individuellement. Ce n'est pas la direction de la recherche qui a été interrogée sur sa politique de recherche. Et puis, les choix décisifs, ensuite, ils ont été faits au niveau national. Alors, je crois qu'on peut sans doute parler, comme ils nous l'ont dit tout à l'heure, d'une politique d'acquisition au niveau national, mais je pense qu'on ne peut pas considérer que ces choix sont partie intégrante de la politique de développement de l'offre d'un établissement en particulier. Alors, ça ne nous a quand même pas empêché, très consciencieusement, puis peut-être un petit peu naïvement aussi, de signaler toutes ces ressources acquises en licence nationale sur notre portail. Bon, une belle liste. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur ce portail ? Ben, une liste interminable avec des choses qui intéressent vraiment que très très moyennement notre public. Alors, ce n'est pas une critique que j'adresse à ISTEX, mais je constate simplement, c'est que ces acquisitions, elles ne font pas partie de notre politique documentaire parce qu'elles n'ont pas été acquises tout simplement pour nos usagers en particulier. Et alors, on se retrouve aussi quasiment dans la même situation vis-à-vis de l'offre en open access. Alors là, je sais que j'aille assez vite, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est que le mouvement de l'open access. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que ce mouvement de l'open access, c'est aussi ça qui nous a amené à penser notre politique en fonction des publications des chercheurs. Parce que pour un chercheur publié en open access ou pour une direction de la recherche encourager, voire obliger sa communauté de chercheurs à mettre sa production en accès libre, c'est non seulement reprendre la main sur les publications des résultats de sa recherche, mais c'est aussi permettre à terme à chacun d'avoir accès à la documentation dont il a besoin. Alors, est-ce que les bibliothèques ont quelque chose à voir là-dedans ? Alors, oui, bien sûr. D'abord, ce sont généralement les bibliothèques qui administrent des archives ouvertes institutionnelles, et c'est ce qui se passe à l'école des mines. Mais je pense qu'au-delà, il y a aussi un lien avec la politique documentaire, et ce lien, je pense que c'est le lien financier, tout simplement. En effet, quand un chercheur veut publier dans une revue open access, pas dans une archive ouverte, vraiment dans une revue open access, ce que l'on appelle la voie dorée. Il est fréquent qu'il lui soit demandé une contribution financière, parce que comme son article ne sera pas vendu, puisqu'il est placé en accès libre, on lui demande de participer à l'édition, donc financièrement. Ces contributions sont appelées APC, Article Processing Charge, et sont payées en général par l'établissement sur le budget des centres de recherche. Alors, jusque-là, tout va bien, enfin, presque, parce qu'il y aurait quand même beaucoup à dire sur les tarifs des APC, mais là, je crois que je n'ai pas trop le temps d'en parler. Mais tout va bien, sauf que certaines de ces revues sont hybrides et contiennent à la fois des articles en open access et des articles accessibles uniquement par abonnement. Alors, nous, les bibliothèques, qu'est-ce qu'on fait pour permettre à nos usagers de lire ces revues ? Eh bien, on paye des abonnements. Alors que parfois, nos chercheurs ont payé pour la partie article en accès libre. Et donc là, on voit que vraiment chercheurs et bibliothécaires ont intérêt à se concerter pour éviter de payer deux fois. Alors certes, les tarifs des abonnements de certains éditeurs tiennent compte du montant des APC payés par par un établissement pour diminuer le coût de l'abonnement, mais ça reste une exception rarissime. Nous, on n'est qu'un seul éditeur qui le propose pour l'instant. Donc, bon, je crois qu'il va y avoir quand même une période de transition entre le modèle actuel basé sur le principe de l'abonnement et l'open access généralisé, une période qui va être assez difficile à gérer. D'ailleurs, les Britanniques, dans un rapport de 2012 qui préconise le développement de l'open access, faisaient la part belle à la voie dorée hybride. Et puis il commence à se rendre compte que finalement il est assez difficile de négocier parallèlement les tarifs des APC et ceux des abonnements. Et ça, c'est quand même un problème assez aigu auquel on est confronté actuellement. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Certains commencent à se poser la question d'utiliser les crédits dédiés aux abonnements pour payer des APC, bien sûr. L'Académie des sciences, dans un rapport récent, déclare une transformation intégrale des budgets d'abonnement de la recherche publique en budget d'aide à la publication dans des revues homologuées est nécessaire. Alors, l'Académie des sciences préconise cependant pas d'utiliser tout cet argent pour payer des APC. Une partie, mais elle conseille plutôt de financer avec ces sommes-là une généralisation des licences nationales. C'est ce qu'ils appellent l'institutional open access. Bon, moi, ce modèle me laisse encore un peu rêveuse. Hein. Ça me semble pas très très au point, mais c'est quand même ce type de logique qui a présidé à la signature de la licence nationale avec Elsevier, dont on commence à mesurer un certain nombre d'effets plus ou moins pervers quand même. Voilà. Ce que je voudrais souligner toutefois, c'est qu'il existe quand même d'autres solutions pour rémunérer les éditeurs que le paiement d'APC ou les licences nationales. Comme le modèle qui consiste à payer à l'éditeur non pas les publications en tant que telles, mais les services ajoutés qu'il propose via sa plateforme. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de cas, mais ça existe quand même. Il est également possible que ce soit tout simplement les institutions elles-mêmes qui financent la diffusion des résultats de la recherche en créant leurs propres journaux en libre accès ou en améliorant les archives ouvertes institutionnelles en leur adjoignant des épi-journaux. En tout cas, ce qui me semble évident aujourd'hui, c'est que la notion d'acquisition de documentation est en train de perdre son sens, tout simplement parce que le modèle de financement de l'édition scientifique est en train d'évoluer très profondément. Et bon, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Hein, dans un tout autre univers, celui de la musique, par exemple, c'est déjà réalisé. Hein. Donc là, la conclusion à laquelle on est arrivé, nous, à notre niveau, dans notre école, que c'est quand même de moins en moins la bibliothèque qui construit par ses acquisitions une collection. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de constitution d'une collection? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux parler, plutôt que de politique de développement de la collection, de parler de politique d'accès à l'information et d'une politique d'accès à l'information qui va prendre tout son sens, je pense, dans le signalement. Nos collègues de la BEST nous ont bien montré hein, quelle importance ça peut avoir, dans la mise en scène et dans la formation à la recherche d'informations. J'ai encore un peu de temps. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte finalement que nos usagers ils puissent se constituer leur propre collection et que notre rôle maintenant, c'est plutôt de les accompagner dans cette tâche, de les aider à se repérer dans la masse d'informations qui est à leur disposition et de leur donner les clés qui vont leur permettre de sélectionner l'information qui est pertinente pour eux. Alors, d'abord, ce qui est très important, bien sûr, c'est de signaler. Pour ça, je ne vais pas développer parce que vous en avez déjà pas mal parlé. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il faudrait signaler non seulement les ressources auxquelles on accède par abonnement, enfin payante, mais aussi les ressources auxquelles on accède librement. Et là, l'outil de découverte qu'on est en train d'acquérir au sein de notre commu moissonnera, bon, bien sûr, nos différentes archives ouvertes, mais aussi les ressources libres qu'on aura sélectionnées. Ça me semble essentiel aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, au-delà du signalement, on s'interroge sur la mise en scène, sur la matérialisation. L'intervention de Frédéric Souchon nous a beaucoup intéressés d'abord parce que nous on n'avait qu'une liste par ordre alphabétique qui était très bien pendant un certain temps, mais avec le développement ça devient illisible. Et en plus, je pense que ça n'a aucun sens de donner des listes de ressources payantes à notre public. Eux, ils s'en fichent complètement de savoir si c'est payant, si c'est payant ou pas. Ce qu'ils veulent qu'on leur signale sur notre portail, c'est ce qui est pertinent pour eux. Que ce soit payant, payant ou pas. Donc on réfléchit à une présentation un peu plus thématique via notre portail et puis éventuellement à des matérialisations, en particulier des e-books qui ont un peu de mal quand même à être utilisés. Voilà. Alors autre question aussi qui nous agite beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'on doit avoir recours à des techniques de communication pour attirer l'attention sur l'offre documentaire. Alors on a créé, ou plutôt on a ranimé nos comptes Facebook et Twitter, et puis on s'en sert pour, entre autres pour promouvoir des ressources intéressantes et diffuser la veille que font les bibliothécaires. Mais au-delà de... Et puis ce dont on est sûr aussi, c'est qu'il faut régulièrement rappeler à nos usagers ce à quoi ils ont accès. Bon, d'abord parce qu'ils tournent, hein, y a des élèves, et puis ensuite parce qu'ils oublient vite et qu'il faut entretenir cette image positive de la bibliothèque et faire savoir. Mais encore au-delà de ça, même en signalant bien, même en faisant savoir, je crois que la seule façon vraiment d'aider nos usagers à se procurer l'information dont ils ont vraiment besoin, c'est de les aider à développer leurs compétences informationnelles et finalement de leur donner les moyens quoi, de se constituer cette documentation dont ils ont besoin. Alors là, c'est la question de la médiation. Bon, moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est pas forcément très approprié. D'abord, là, on n'a pas besoin de mettre en contact les usagers de la bibliothèque avec l'information. Ils sont déjà noyés dedans. Mais en revanche, je crois qu'il faut qu'on assume vraiment le versant pédagogique de notre métier et qu'on apprenne à nos usagers à trier l'information pertinente, à l'évaluer, à l'organiser. Alors, nous y travaillons, nous, tous les jours, hein, c'est vraiment un des projets importants de notre bibliothèque, en intervenant dans tous les cursus de l'école à tous les niveaux. Alors, on a pour principe, plutôt que de présenter longuement et en détail l'offre de la bibliothèque, de nous appuyer plutôt sur les enseignements et sur les travaux que les étudiants ont à réaliser pour leur apporter des éléments méthodologiques dont ils ont besoin. On travaille pour ça en étroite collaboration avec les enseignants. Et si on a bien sûr déterminé un certain nombre de connaissances puis de savoir-faire à transmettre, on ne les transmet jamais de la même façon. On s'adapte à chaque groupe en fonction de leurs demandes. On leur fait petit à petit découvrir un minimum de méthodologie pour qu'ils puissent s'y retrouver. D'ailleurs, ces séances, elles sont aussi très instructives pour nous parce que c'est aussi l'occasion, et on reboucle avec la politique documentaire, c'est aussi l'occasion pour nous de nous apercevoir si les ressources qu'on sélectionne sont vraiment utiles et de découvrir, alors là on avoue parfois un petit peu tard, les sources dont ils ont besoin. Cette démarche, elle est similaire aussi vis-à-vis des chercheurs confirmés qu'on ne forme pas, parce que de toute façon, on ne forme pas un chercheur, ça se fait pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai aussi qu'ils connaissent mieux leur domaine que nous. Mais par contre, on dialogue beaucoup avec eux, on partage beaucoup des connaissances avec eux, en particulier sur la détermination des critères de qualité et de pertinence d'une publication. Eux, ça les intéresse en tant qu'auteurs, en tant que publiant, et nous, ça nous intéresse en tant que sélectionneur d'informations. Et les débats qu'on a avec eux sur les indicateurs bibliométriques ou sur l'open access sont vraiment précieux pour nous et contribuent aussi à construire notre politique de sélection d'accès et puis à long terme, j'espère aussi, c'est quand même un objectif que je me fixe, de contribuer aussi à influer sur leur façon de publier, parce que je crois que c'est là aussi la clé, et de cette façon-là aussi, tout simplement à orienter la politique de notre école en matière de transmission des savoirs. fallait peut-être un peu vite, mais
pas beaucoup de temps.